Il est 12h à Kinshasa.
Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Jacques-Yves Molima. La justice suspend tout intérim à la tête de la province du Congo central. Le Conseil d'État a ainsi notifié toutes les parties concernées dans ces dossiers, entre autres les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur et la CENI. De ce fait, Atuma Tubwana reprend-il ses fonctions automatiquement? L'analyste juriste Willy Wenga pense que c'est l'organisation de l'intérim qui a posé problème. Taux de mortalité très élevé enregistré dans la zone de santé de Mulungu en territoire de Shabunda au sud Kivu. C'est à la suite de la malnutrition sévère qui sévit dans cette zone depuis le retrait de Médecins Sans Frontières il y a 8 mois. En effet, plus de 80% des cas de décès sont dus à cette malnutrition. Notre invité dans cette édition, c'est Monsieur Joseph Poutou, secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale indépendante CENI Kasaï Centrale, où son bureau est déjà ouvert pour la réception des candidatures au poste de gouverneur et vice-gouverneur. Il rappelle que la clôture des dépôts des dossiers intervient le 30 octobre prochain. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Sachez plutôt que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé en Israël cette nuit accompagné de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Le chef de l'État congolais entame ce mardi sa première visite officielle dans l'État hébreu. Plusieurs rencontres sont prévues avec des hautes personnalités politiques et du monde des affaires. Par ailleurs, le président va aussi profiter de son passage en Israël pour se recueillir sur certains sites historiques de ce pays ancrés dans la tradition biblique, indique le compte Twitter de la présidence. Nous l'avons dit au sommaire, le gouverneur Atuma Tubwana du Congo central reprend-il ses fonctions? Selon une décision judiciaire, le Conseil d'État a suspendu depuis samedi 23 octobre dernier l'intérim au gouvernorat de la province. Et hier lundi, il a notifié son ordonnance mettant fin à cet intérim au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, au ministre d'État en charge de la Justice, ainsi qu'à toutes les autres parties concernées, dont la CENI. Jeff Ngoyi pour les détails.
Atuma Tubwana avait saisi en septembre dernier le Conseil d'État, section contentieuse, siégeant en chambre de conseil en matière de référés liberté. Il avait demandé au juge des référés liberté de mettre fin à l'intérim ouvert par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur à travers son message officiel du 5 septembre. Selon Atu, la décision du vice-premier ministre portait atteinte à ses libertés fondamentales. La loi sur les juridictions de l'ordre administratif dispose à son article 283 que lorsque une décision porte atteinte aux libertés fondamentales, le juge en référé liberté est saisi pour se prononcer. C'est ce qui vient d'être fait et le juge lui a donné gain de cause. À l'audience, le conseil du vice-premier ministre avait soulevé l'exception d'anticonstitutionnalité pour bloquer le juge, estimant qu'il revenait à la cour constitutionnelle de statuer sur l'affaire. Le juge a rejeté ce moyen. C'est depuis hier lundi qu'il a notifié toutes les parties. Le parquet général près cette haute juridiction est chargé d'exécuter immédiatement cette ordonnance.
Cette affaire d'Atuma Tubwana, des zones d'ombre demeurent encore sur cette affaire d'intérim au gouvernorat de la province du Congo central. Au moment où nous parlons, la CENI a-t-elle organisé une nouvelle élection du gouverneur de la province? Est-ce qu'elle va se buter à cette décision du Conseil d'État? Est-ce que par cette ordonnance du Conseil d'État, Atuma Tubwana reprend automatiquement ses fonctions ou faut-il encore une notification du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur? Suivons l'analyse de Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Il a été joint par Alain Irung.
Mais la question de droit qui demeure est de savoir si c'est la destitution de Atuma Tubwana qui reste en fonction, parce que il se pourrait qu'en exécution de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, que le vice-premier ministre ait considéré que Atuma Tubwana ne doit plus continuer à exercer ses fonctions de gouverneur de province du Congo central, mais peut-être c'est la manière dont lui, le ministre, a organisé l'intérim par une simple lettre qui n'a pas plu au Conseil d'État, et lorsqu'il a été saisi par le requérant, c'est la question de la forme là qui a intéressé et a ordonné que les effets de cette lettre-là soient suspendus.
Pour l'instant, Atuma Tubwana ne reprend pas ses fonctions.
Non, bien sûr, vous savez que celui qui doit exécuter la décision du Conseil d'État, donc cette ordonnance, c'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, et que si lui a une autre lecture par rapport à un autre arrêt, par exemple de la Cour constitutionnelle, il considérera qu'il est en face de deux décisions de justice à exécuter, et partant, celle qui ordonne la déchéance a plus de valeur que celle qui ordonne l'intérieur. intérim, il peut corriger la manière d'organiser cet intérim-là et les choses reprennent comme il avait déjà décidé.
Justice encore, procès Kofi Olomide en France. Le procureur a requis 8 ans de prison ferme hier lundi contre la star congolaise jugée devant la cour d'appel de Versailles en région parisienne pour agression sexuelle et séquestration de 4 de ses anciennes danseuses lors des tournées en France. Présent à l'audience, le prévenu a rejeté en bloc toutes les accusations. « On me présente comme un monstre, comme un diable, c'est terrible », lance-t-il à la cour. « Je n'ai jamais séquestré ses filles, comme il appelle ses danseuses. Moi, j'ai cherché à les protéger et elles ont trahi ma confiance », a-t-il conclu. Il n'y a absolument aucun élément matériel accréditant les dires de plaignante, a estimé dans sa plaidoirie maître Antoine Veille, avocat du chanteur plaidant la relaxe. Le jugement a été mis en délibéré au 13 décembre. Au sud Kivu, la zone de santé de Mulungu en territoire de Shabunda enregistre un taux de mortalité très élevé. Situation qui fait suite à la malnutrition sévère qui sévit dans cette zone depuis les retraits de Médecins Sans Frontières dans cette partie du territoire de Shabunda il y a 8 mois. L'hôpital général de référence de Kingulube rapporte plus de 80% des cas de décès dus à la malnutrition depuis la rupture des intrants qui étaient fournis par MSF. Jean Kassami nous appelle depuis Kingulube en territoire de Shabunda.
La plupart des victimes sont des enfants de 6 mois à 5 ans. D'après le médecin directeur de l'hôpital de référence de Kigulube, la malnutrition est provoquée par l'abandon des activités agricoles au profit de l'exploitation artisanale des minerais. La population de Kigulube préfère aller creuser de l'or au lieu de cultiver pour avoir des produits vivriers. Comme conséquence, l'alimentation devient médiocre et non variée. Et du coup, la population patauge dans la sous-alimentation qui conduit à la mort. Docteur Kikuka Maïbert indique que son hôpital compte lancer une campagne de sensibilisation de la communauté aux travaux champêtres. Mais en attendant, il lance un appel pathétique aux organisations humanitaires de venir en aide à la population de Kigulube Mulungu. De Kigulube, Jean Kassami, Radio Okapi.
En Ituri, plus de 15 000 personnes déplacées qui ont fui les exactions de la CODECO bénéficient d'une assistance en biens non alimentaires dans les territoires de Maragui. C'est dans le cadre du projet UNICEF Réponse Rapide, exécuté par l'ONG Programme pour la Promotion de Santé Primaire, PPSP. Le point focal de cette organisation précise que cette action vise à atténuer la souffrance de ces déplacés dépourvus de tout dans leur milieu de refuge. Isaac Remoyo.
Ces déplacés estimés à plus de 3300 familles sont installés au village de Katanga, Uju, Watsi et Djupagaga. Ils ont fui depuis juin dernier les atrocités de la milice Codeco dans une dizaine de localités. Selon les points focaux de l'ONG PPSP Trésor Muyumba, ces personnes vivaient dans des conditions misérables. La plupart d'entre elles dormaient à même le sol, sans natte ni couverture, dans des maisons de fortune qui les exposent aux intempéries. Pour atténuer leurs souffrances, cette ONG a remis entre autres des nattes, des bâches, des ustensiles de cuisine, des bidons pour la conservation d'eau, des lavabos et du savon et des kits d'hygiène intime pour femmes. Les bénéficiaires ont remercié l'ONG PPSP pour cette action sanitaire qui leur donne un peu de sourire. Cependant, ils plaident pour une assistance en vivres car ces déplacés, leurs familles d'accueil n'ont pas accès à leurs champs à cause de l'insécurité due à la présence des miliciers de la CODECO dans ces milieux. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et puis, carence d'eau potable dans la ville ferroviaire de Mweneditu, dans la province de Lomami, située à 132 km de Mbujimayi. L'eau potable de la régie des eaux ne coule plus au robinet depuis bientôt 2 semaines. Au centre secondaire de la régie des eaux Mweneditu, l'on parle d'une panne survenue sur le groupe électrogène du centre de captage d'eau au niveau de la rivière Moussadi, à 6 km de la ville. Esther Ndalafina nous parle des conséquences de cette carence d'eau. Suivez.
Cette carence d'eau présente déjà des conséquences sur le panier de la ménagère. Un bassin d'eau qui se vendait à 50 francs congolais, dont des sources aménagées coûtent actuellement 200 francs congolais, les ménagères se plaignent. Aline Mouswamba.
À la source des instants, un bidon, chaque fois, des choses, il y a beaucoup de gens en demande,
Avec les pluies qui s'abattent régulièrement la nuit, les sources deviennent boueuses et rendent l'accès difficile à l'eau. Yvette Mbouyi s'inquiète de cette situation.
Quand il pleut, plaît comme ça, on ne sait pas retrouver de l'eau là. Il y a de la boue qui dérange de l'eau de la source. On contribue ou descend, prend des sangs, faire des sangs longs, il peut attendre même 2-3 heures du temps pour avoir de l'eau. Il y a de l'eau.
Le directeur du centre secondaire de la régie des eaux Monetitou annonce pour sa part l'arrivée en Mbujimayi d'un autre générateur en provenance de Kinshasa pour remplacer celui qui est tombé en panne, François Mkonkole.
C'est depuis la semaine passée que le groupe devrait arriver, mais jusqu'aujourd'hui on va d'aéroport. Dans moins d'une semaine, la population aura de l'eau.
Signalons que pendant cette période de carence d'eau, quelques quartiers de la ville ferroviaire de Monéditou recourent aux puits d'eau traditionnels non motorisés pour s'approvisionner en eau. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, les acteurs de la société civile dans la partie sud du territoire de Lubero dénoncent la présence massive des groupes armés dans plusieurs villages de la chefferie de Batangi. Ces milices sont accusés de pillage principalement du bétail dans ces différents villages. Les acteurs de la société civile invitent les autorités militaires à éradiquer ces milices avant que le pire n'arrive. L'administrateur du territoire annonce le renforcement des positions militaires dans cette zone en vue de parer à toute éventualité. Grâce à Mzati pour les détails.
C'est depuis le début de ce mois d'octobre que des mouvements d'hommes armés sont observés dans cette partie de Lubero pendant que les forces de sécurité mènent la traque des groupes armés dans les parcs de Virunga sur la côte ouest du lac Édouard. En débandade, ces miliciens sont présents dans plusieurs entités de la chefferie de Batangi. Ces miliciens se livreraient ainsi au pillage notamment des caprins et d'autres animaux domestiques. Le principal groupe cité, c'est le groupe de Mai Mai Ngoleng actif dans le parc. La nuit de samedi à dimanche dernier, un groupe de miliciens a pillé 30 chèvres à Boulotoa avant de s'accrocher à un autre groupe à 2 km de là, rapporte Kassere Kamwendapole, président de la société civile locale. La même source ajoute que la journée de dimanche, des Mai Mai Ngoleng ont tenu un meeting à Mwimbie, exigeant un basset de farine de manioc et une poule à chaque cultivateur la semaine. La société civile invite l'armée à se déployer dans la zone et mater ses inciviques avant qu'ils ne s'enracinent dans les milieux. Contacté, le chef de la chefferie de Batangi, Mwamistu Kamwanaweka, confirme ces faits. Pour sa part, l'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Donandonda, dit s'imprégner de la situation afin de renforcer la présence militaire dans cette partie du territoire de Lubero. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Après le Mali, le Niger a reçu lundi 25 octobre la délégation du Conseil de sécurité conduite par les trios de représentants à l'ONU de la France, du Kenya et du Niger. Une visite de 24 heures qui a permis à la mission de s'enquérir de la situation sécuritaire au Niger, notamment en visitant le poste de commandement du G5 Sahel à Niamey. Le chef de la mission, Martin Kimani, représentant permanent du Kenya à l'ONU, a déclaré, je le cite, « Nous devons nous lever et soutenir le Niger, nous devons soutenir le G5 Sahel parce que le combat que mènent les populations du Niger n'est pas uniquement un combat pour eux-mêmes, mais aussi un combat pour l'Afrique » et pour la communauté internationale. Et puis, une dizaine de femmes ont brièvement manifesté ce mardi 26 octobre au matin à Kaboul pour dénoncer le silence de la communauté internationale sur la situation politique, sociale et économique de l'Afghanistan. Les talibans empêchant de nouveau la presse de s'approcher du cortège. Ces manifestantes se présentant comme membres du mouvement spontané des femmes militantes en Afghanistan ont brandi de pancarte sur lequel était écrit « Pourquoi le monde nous regarde mourir en silence, droit à l'éducation ou encore droit au travail ?»
L'invité.
Le secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale indépendante, CENI Kassai Central, est notre invité dans cette édition du journal. En prévision des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs prévues le 3 décembre prochain, son institution a démarré à Kananga l'enregistrement des candidatures. Joseph Poutou rappelle que la clôture des dépôts des dossiers intervient le 30 octobre prochain et les candidats doivent remplir les critères d'éligibilité pour participer au scrutin. Il en parle dans cet entretien avec François Kadima. Suivez.
Monsieur Joseph Mputu, bonjour.
Bonjour. Les élections pour les provinces à problème, notamment le Kasaï central, c'est prévu le 3 décembre. Avant cette date, qu'est-ce qui est prévu pour ceux qui désirent se présenter comme candidat gouverneur ou vice-gouverneur du Kasaï central?
Nous avons reçu le calendrier qui émane de la décision 017 du 22 octobre. Le bureau de réception et de traitement des candidatures est ouvert dans la province du Kasaï central. Tout le personnel est installé dans le bureau. Je voudrais rappeler que le bureau est ouvert le 25 et va fermer ses portes le dimanche le 31. Ça, c'est à l'attention de tous les futurs candidats qui veulent venir retirer les fiches et puis déposer leur candidature. C'est dire que après le 31, le dimanche, il n'y aura pas un jour de plus. Donc, ils doivent se préparer. Ça, c'est, j'ai mis ça entre parenthèses. S'agissant des opérations, le bureau de réception de traitement de candidature reçoit les candidats. Il y a deux sortes de candidats. Il y a les candidats qui émanent de partis politiques ou de regroupements politiques. Et ceux-là, ils peuvent retirer les formulaires en envoyant leur mandataire. Il y a les candidats indépendants qui, lui, peut choisir son mandataire qui peut venir retirer les formulaires ou soit lui-même peut se présenter à notre office, c'est-à-dire au BRTC, pour retirer ses formulaires. Voilà le travail que le BRTC est en train de faire d'abord dans la réception de candidatures.
Alors, après cette étape, quels sont les critères pour toute personne qui peut venir soit d'un parti politique, soit un indépendant, comme vous l'avez dit?
En principe, les critères sont repris dans la loi. À l'article 161, il faut seulement être de nationalité congolaise, être âgé de 18 ans, révolu hein, à la date de la clôture de dépôt de sa candidature, et ça on contrôle très bien à partir de notre carte que nous avons délivrée. Il faut jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Les candidats doivent avoir la qualité d'électeur, c'est-à-dire avoir de la qualité d'électeur, se munir de sa carte d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature. Jusque maintenant, nous n'avons pas encore connu ces cas d'un futur candidat ou d'un candidat qui n'a pas été enrôlé. Le candidat doit avoir un diplôme de graduat, au moins, mais la loi dit que le candidat peut justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans l'un des domaines suivants. Les domaines politiques, les domaines administratifs, économiques ou socio-culturels. Voilà les conditions d'éligibilité.
Le 31, vous clôturez avec l'enregistrement des candidats, gouverneurs et vice-gouverneurs. Qu'est-ce qui va suivre? Quelles sont les prochaines étapes jusqu'aux élections?
Le BRTC va fermer ses portes le 31 octobre 2021. Le vendredi 5 novembre 2021, il y aura l'ajout, le retrait ou substitution des candidatures. Le dimanche 7 novembre 2021, il y aura l'étape de transmission des dossiers physiques de candidats au bureau de la CENI. Donc, c'est-à-dire notre province, comme toutes les autres provinces qui sont concernées par cette opération, nous allons transmettre les dossiers physiques à Kinshasa et pour délibération dans la plénière. Le lundi 8 novembre 2021, le bureau de la CENI va publier la liste des candidatures recevables et non recevables. Et on va aller plus loin. Le vendredi 19 novembre 2021, il y aura la publication de la liste définitive des candidats pour la CENI. Et le vendredi 3 décembre 2021, il y aura vote de gouverneurs et de vice-gouverneurs. Évidemment, avant ces votes, il y aura l'accréditation des témoins. Nous allons interagir avec notre assemblée provinciale. Il y aura la campagne électorale et qui va déboucher sur les votes que je venais de parler.
À l'ouverture de BRTC, il n'y a pas engouement. Quel message vous passez en tant que numéro 1 de la CENI au Kasaï central?
Nous référons à l'expérience du passé. Nous lançons un appel à tous les partis politiques, à tous les candidats indépendants de respecter cette échéance du 25 au 31. Parce qu'après les 31, nous ne recevons aucune personne, aucune candidature. Donc ils doivent se préparer maintenant parce que le bureau est ouvert de 8h30 à 16h30 chaque jour. Donc nous restons au bureau, nous attendons ces candidats, nous attendons ces partis politiques, nous sommes disposés à donner tous les éclaircissements sur les dossiers. Il ne faut pas qu'après le 31, que quelqu'un vienne le lundi, voilà, je viens déposer, donc les bureaux seront déjà fermés.
Monsieur Joseph Mputu, nous vous disons merci.
Merci à Radio Okapi.
Voilà, Joseph Mputu, secrétaire exécutif de la CENI au Kasaï central, était notre invité dans cette édition du journal et répondait aux questions de François Kadima. Complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Dieudonné Nyangasa. Il a été coordonné par Noéla Luzitu sous la supervision d'Alain Irung et présenté par Jacques-Yves Molima Aouta, Missouma Pumbadoua. Mesdames et messieurs, bonjour à tous.